Bonsoir, bonsoir. Ce soir sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, une interview de la grande dame de la chanson populaire italienne, Giovanna Marini. Nous vous retransmettons cette interview que nous avons entendue sur Radio Suisse Romande. Elle a eu lieu, cette interview, à l'occasion de l'arrivée de Giovanna Marini et de son spectacle qui aura lieu à partir de lundi prochain, 24 juin, à Lausanne, au Théâtre de Vidi.
Donc Giovanna Marini, que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin, en ce début de semaine, au petit déjeuner. Giovanna Marini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romaine, Giovanna Marini.
Oui.
Vos parents étaient musiciens et vous êtes tout à la fois, on aura le temps de développer dans ce petit déjeuner, cantatrice, compositeur, professeur de musique. Dans une école de musique populaire, c'est l'école du Testaccio de Rome.
Oui.
C'est une école que vous avez fondée, créée en 75, si je ne fais erreur.
Oui, pas moi-même seule. Hein. C'était un groupe de musiciens, surtout de jazzmen, très, très bons en Italie. Et puis je me suis ajoutée quelques mois après.
Dans quelles circonstances avez-vous créé cette école de musique ?
Circonstances. Vous savez, en Italie, avant, pendant les années 60, il y avait eu pour le chant et pour une grande poussée pour la recherche. Il y avait eu Pasolini qui était sorti en 59 avec son livre très beau sur le chant du Frioul. Puis il y avait vraiment beaucoup de recherches, beaucoup d'intellectuels qui pensaient à ressortir, Ernesto De Martino au sud, à ressortir toute la vérité du peuple italien, c'est-à-dire leur histoire parlée, racontée par eux-mêmes et pas par les historiciens. Et donc c'était tout un travail qui, en profondeur, qui amenait aussi à s'intéresser à la musique. Donc moi je me suis intéressée à ça et on a fait beaucoup de choses, parmi lesquelles des choses qui n'étaient pas vraiment dans la ligne de la politique italienne de ce moment, n'est-ce pas ? Et donc qui était subversive d'un certain point de vue, comme le spectacle de Bella Ciao à Spoleto au Festival de Deux Mondes et tout ça. Et donc ça a fait un peu comme si c'était un 68 avant le 68, pendant 64, 65. Et puis dans les années 70, les jeunes ont arrêté un moment parce que le terrorisme a commencé et on s'est épouvanté.
Comment avez-vous vécu cette période de terrorisme, Giovanna Marini ?
Avec une grande peur. Parce qu'il y avait des gens que je connaissais bien, de la faculté des sciences économiques de Trento, par exemple, qui étaient mis en prison. Et le commencement, c'était une division entre des gens que nous connaissions bien. Et ça a fait beaucoup de peur à tout le monde. Donc, on a quitté la politique. On a quitté aussi les choses trop engagées. Et à ce point-là, l'école de musique était une idée qui est venue comme s'il y avait besoin, en tout cas, d'engager la propre volonté, la propre envie de changer les choses en quelque chose sur la longueur. Et ça, c'est parti par Bruno Tommaso, Maurizio Gianmarco, des grands musiciens jazz, qui avaient été accueillis au conservatoire l'année précédente et puis repoussés immédiatement par tous les autres enseignants, les vieux musiciens qui n'en voulaient pas du jazz. Et donc, ils ont occupé l'école, ces lieux squattés, comme vous dites en français, n'est-ce pas,
oui.
Les lieux de Testaccio. Et je me suis jointe à eux. Et l'école est florissante maintenant.
Oui,
elle a perdu beaucoup, elle a gagné d'autres choses, perdu d'autres, vous voyez, ça a changé beaucoup, mais ça va très bien.
Le Testaccio, c'est un quartier central et populaire de la ville de Rome.
Oui, oui. C'est un quartier aussi où il y a eu une résistance très forte, par exemple, contre la, pendant la guerre. Il y avait des socialistes, même Nenni a été caché dans le testaccio. Les gens ont toujours accueilli les juifs, parce que c'est proche aussi du ghetto où étaient les juifs. Donc ils ont été mêlés à la population romaine dans le quartier de Testaccio, le plus généreux, Trastevere et Testaccio.
Vous parliez tout à l'heure de la vérité italienne. Quelle est la vérité italienne aujourd'hui en 91? Nous avons suivi le journal de Silvia Pereira ensemble à 9h, là tout à l'heure. On parlait notamment de, non pas de l'apparition, mais de la consolidation des, de ce qu'on appelle les ligues en Italie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer en quelques mots ce que sont ces ligues, ce qu'elles veulent, et comment et pourquoi surtout elles obtiennent le succès qu'elles connaissent aujourd'hui?
Vous voyez, les ligues, en réalité, ils veulent diviser le nord du sud. À mon avis, c'est un peu tard maintenant, parce que la mafia est arrivée au nord. Mais c'était parti, je ne pense même pas comme une idée contre mafia, pour être sûr que le nord soit sans mafia. Je pense que c'était parti plutôt parce que les nord, au nord, ils ont toujours l'impression d'être eux qui travaillent, eux qui font les choses, et au sud, rien. Mais ça, d'un côté, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que tout le travail noir très pénible qui se fait au sud, ils vont le perdre s'ils divisent l'Italie. C'est-à-dire qu'au sud, on vit des miettes du nord, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai aussi que la politique italienne du parti au pouvoir a été toujours d'acheter les votes au sud. Donc, c'est pas tellement évident de diviser l'Italie en deux. Mais c'est vrai que ça a pris grand parti, la Ligue, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très experts en politique, n'est-ce pas, mais qui voient les résultats. Elles voient qu'eux, ils travaillent, ils payent les impôts, et qu'il y a toute une partie d'Italie qui à leur avis, ne paye pas d'impôts. Mais c'est vrai, mais ils ont été forcés, à mon avis, à se comporter de cette façon-là, à se porter de cette façon-là au sud. Au sud, la seule chose qui est régalée, non, on ne dit pas régalée, n'est-ce pas, mais un cadeau,
un voilà, cadeau
que les politiciens italiens font au sud, c'est de les laisser vivre comme des brutes, comme des sauvages, en leur donnant la pension d'invalidité permanente, par exemple, en change de vote de toute la famille et de la dévotion de toute la famille. Vous êtes sûr que si vous demandez à une famille qui a trois pensions d'invalidité permanente, si vous leur demandez quelque chose, ils la font pour vous. Et les politiciens ont toujours voulu ça, donc ils ne veulent pas arrêter ça. Dans un petit pays de Calabre où je vis, tout le monde vit de pensions d'invalidité permanente.
Giovanna Marini, vous êtes inquiète en ce qui concerne l'évolution, le développement aussi de votre pays actuellement?
Très. Je n'étais pas très inquiète jusqu'à maintenant. Maintenant, je commence à avoir peur que les choses vont changer en mal. J'ai peur d'une république présidentielle, parce que vous voyez, il y a tous les extraits. Tout le moment va bien pour l'affaire. Le pauvre Cossiga qui parle. Et qui, bon, les gens rient, s'amusent. Vous savez, il y a toujours ce côté des Italiens qui s'amusent. Et Cossiga dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Et on s'amuse, on dit le pauvre, il a une sorte de débilité sénile. Mais ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est que l'île est désespérée et complètement isolée et qu'il fait des choses qu'il ne pourrait pas faire autant que président de la République italienne et que la démocratie chrétienne lui laisse faire parce que c'est important de créer un précédent. Donc il est en train d'ouvrir, je ne sais pas, combien innocemment, d'ouvrir la route à la République présidentielle, parce qu'il sort de ses... il devrait être... se taire avant tout. Notre président de la République ne doit pas parler. Il doit parler que dans les lieux consacrés à ça, c'est-à-dire au Parlement et au Sénato, et par écrit aussi. Tandis que lui, il parle dans tous les lieux où il va, il fait une conférence même amusante, même intéressante, passionnée, le pauvre, il souffre, c'est évident. Mais là, il est névrotique, il devrait parler seulement à son psychanalyste.
Giovanna Marini, nous reparlerons de politique aussi au cours de ce petit déjeuner, parce que l'action que vous conduisez, votre démarche à la fois de chanteuse et de musicienne n'est pas coupée, elle n'a jamais été coupée des réalités sociales. J'aimerais rappeler qu'on vous doit donc un certain nombre de spectacles, de créations de chansons populaires. Vous avez rappelé notamment Bella Ciao, des cantates telles que la cantate de tous les jours, des musiques de films et de scènes. Et c'est ainsi que vous signez celle d'un spectacle bientôt en création à Lausanne, donc en Suisse romande. C'est l'Assemblée des femmes d'Arc d'Aristophane, adaptation française de Michel Viala, production du 700e pour la fête des quatre cultures. La première a lieu dans une semaine, très précisément, à savoir lundi prochain, le 24 juin. Tout cela dans une mise en scène de Michel Vojta. Alors nous présenterons ce spectacle au cours de ce petit déjeuner. Le temps de revenir aussi sur la démarche, votre démarche de chanteuse et de musicienne. Ce que vous racontez finalement dans vos spectacles, et je songe en particulier à Passion, c'est ce que vous avez vu et qui ne passe finalement ni par les images, ni surtout par la télévision.
Et non, c'est hors de ça, oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup raconter ce que je vois. Alors, je vais... Vous savez, il y a un peu l'attitude à faire le conteur d'histoire. Et ça, en Italie, a toujours été gardé parce qu'on n'était jamais content de comme les histoires étaient racontées par les autres. On voulait se les raconter soi-même. La télévision, la presse, on n'a jamais fait grande confiance. Et le conteur d'histoire est resté en Italie, le colporteur, vraiment, plus que dans les autres pays de l'Europe. Moi, j'ai aimé beaucoup ça. Et je ne suis pas du tout d'une culture... de la campagne, je suis de la bourgeoisie, ça se voit, ça se sent immédiatement, donc je ne fais pas semblant d'être. Mais en même temps, ça m'a tellement intéressée, et alors j'ai quitté la musique classique pour voir comment ils font pour raconter et à travers la musique. Et c'est très intéressant. Et alors, dans mes spectacles, où je suis seule avec les trois qui chantent avec moi, Patrizia Nasini, Patrizia Bovi et... Lucilla Galeazzi, qui sont maintenant ici deux. Lucilla Galeazzi est ici pour avec Patrizia Bovis pour l'Assemblée des femmes. J'ai écrit des madrigaux, de musique contemporaine, mais toujours très consonante. Et j'écris et je chante, nous chantons aussi les chants traditionnels pour raconter. Et donc, on raconte ce qui se passe. Maintenant, nous racontons beaucoup de pèlerinages, parce qu'en Italie, il se passe de grands pèlerinages tout le temps. Si vous venez en Italie, c'est surprenant. C'est un recours au saint.
Alors, le trajet de la musique classique à l'art populaire, oui. C'est ce que vous nous direz un peu donc, dans ce petit déjeuner. On va vous l'offrir, la prima colazione. Et comment la prenez-vous à Rome, chez vous ?
Le café.
Le café.
Oui.
Le café. Alors, du café simplement, et nous découvrons un extrait du nouveau CD qui est sorti du quartetto vocal oui. que vous dirigez. La composition que nous écoutons est intitulée Passera. Est-ce qu'on peut essayer de la présenter en deux mots ?
Passera ?
Oui.
Ah oui, c'était une chanson. Ça, c'est la seule chanson. Les autres sont madrigaux. Soliste Lucilla Galeazzi qui raconte l'état dans lequel je me trouve quand je suis à Piazza Navona à prendre le café et que j'aime beaucoup. C'est ce moment de détente et je me demande tout le temps si c'est vrai que je suis détendue ou si je fais semblant et si c'est vrai que sono sazia. Comment est-ce que ça se dit que je n'ai plus de faim ou que je fais semblant et tout ça, c'est une chanson.
Le quartet vocal de Giovanna Marini.
Credevo d'esser nata immortale, che il mondo era da cambiare in una volta e non pensarci più. Oh vita mia, quanto è fatta di paura questa mia immobilità. Passerà, passerà, ma la storia chi la fa? All'ombra di una quercia con gli occhi nel cielo, che pezzo di sereno ha avuto in premio a questa età. Oh vita mia, quanto sarà finta o vera questa mia serenità. Passerà, passerà, ma la storia chi la fa? Contenti delle briciole che ci ha lasciato, i potenti attenti solo alla loro continuità. Oh vita mia, quanto si può sopportare questa finta sazietà? Passerà, passerà, ma la storia chi la fa? Immersi in questo sonno saremo risvegliati un giorno da un signore che pensava come me. Oh vita mia,
Il quartetto vocale di Giovanna Marini, qui est donc notre invitée ce matin au petit déjeuner. Nous parlons bien sûr de l'Assemblée des femmes d'Aristophane dans une relecture de Michel Viala dans un instant. Ce spectacle est donc présenté en création au Théâtre Vidi-Lausanne dans une mise en scène de Michel Vojta à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi prochain pour être très précis. J'aimerais rappeler, Marina Marini, que vous êtes premier prix de Rome et vous le disiez il y a un instant, tout a commencé sur le chemin de la musique, en ce qui vous concerne, par la musique classique. Je crois que vous avez eu un diplôme
de guitare. J'étais diplômée en conservatoire, en guitare, puis j'étudiais composition, puis dans ma famille, c'était pas possible de ne pas faire de la musique.
Mais quel instrument jouaient vos parents?
Mais non, ma maman et mon père étaient tous les deux compositeurs. Et le piano, ma mère jouait beaucoup, beaucoup du piano. Et donc, c'était comme mes frères ont dit qu'ils voulaient faire l'université, c'était terrible. Ils ont dit, mon Dieu, comment allez-vous gagner la vie? Parce que chez nous, c'est au contraire. Et donc, mais c'est vrai que j'ai quitté parce que c'était un peu ennuyeux. C'est beau, hein, la musique, c'est très beau. C'est un langage qu'il faut apprendre. Mais quand j'étais dans une orchestre rinascimentale, et on jouait toujours les mêmes choses. Alors, c'est pas amusant. Après un peu, on dit, bon, j'ai connu ça. Le seul qui me semblait toujours de le revoir pour la première fois, c'est Monteverdi. Ça, on joue et c'est nouveau tous les jours, mais les autres. Et donc, à un moment, j'ai rencontré tous ces gens qui ne faisaient pas de la musique. Ils faisaient en réalité de la sociologie, de l'anthropologie. C'était plus amusant, ça changeait tous les jours. Et ils m'ont fait rencontrer ces chanteuses, ces chanteurs de la campagne, qui, à mon avis, chantaient complètement faux et des choses horribles. Mais ils étaient beaux, sympathiques et intéressants. Puis j'ai compris que ce qu'ils faisaient, c'était l'expression d'une autre culture.
Oui, ces chanteurs étaient des travailleurs des champs, oui. Des paysans.
Oui, oui, Giovanna Daffini, le groupe de Piadena, c'était des gens qui travaillaient les champs, qui avaient été pris par l'intérêt de on leur disait, venez et racontez. Et donc, ils racontaient en chantant. Et c'était beau, nous avons formé un spectacle comme ça. Mais je me souviens que moi, j'étais la seule musicienne classique dans le groupe. Je disais, mon Dieu, qu'ils chantent faux, c'est pas possible. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'ils chantaient pas faux, ils chantaient par quart de ton, que notre gamme diatonique n'est pas suffisante et qu'il fallait s'inventer des signes pour décrire leur musique, que c'était beaucoup plus riche. Même si ça semble toujours le même, c'est pas du tout ça. Et donc la passion m'est venue de l'apprendre comme un autre langage. Je me suis mise à étudier ça.
Oui, vous le disiez tout à l'heure, Giovanna Marini, vous êtes issue d'une famille de la bourgeoisie italienne.
Oui.
Comment êtes-vous entrée en contact avec finalement le monde du prolétariat? Parce que c'était monde du prolétariat.
C'était vraiment de prolétariat. Par hasard, parce que Gianni Bosio, ce groupe était formé moitié par des intellectuels très. Il y avait Giovanni Pirelli, par exemple, de la grande famille Pirelli. Et il y avait des gens qui étaient des intellectuels riches, qui s'occupaient, c'était la période ça, c'est typiquement italien ça, qui s'occupaient de faire de la recherche pour ne pas perdre l'Italie. L'Italie pastorale, parce que nous, c'est une terre où tout le monde avant était berger, même pas paysan.
Oui, ce que rappelle un certain nombre de cinéastes, je pense à Ermanno Olmi, par exemple, dans ses films.
Oui. Et oui, c'était une terre pastorale et en effet nos chants aussi sont une harmonie pastorale. C'est même l'imitation des brebis parfois en chantant, vous voyez. Et il faut connaître ça. Et donc Pasolini avant tout, lui aussi, il s'est mis à chercher pour fixer, pour avoir nos racines. Autrement, on est complètement déraciné et nous n'avons pas perdu ça. C'est vrai qu'on a gardé ça malgré tout ce qui s'est passé après. Encore, il y a les enterrements avec les pleurs. Encore, les gens s'expriment avec des façons qui rappellent par image des proverbes, des choses qui rappellent par image une société préexistante qui vivait beaucoup plus sur l'intuition, sur les sentiments, sur les choses comme ça. Vous voyez, typiques d'une civilisation qui a tardé à arriver du point de vue technologique.
Oui, il y a cette polyphonie qui couvre finalement tout, vous venez de le dire en quelques mots, à savoir les hurlements des pleureuses, les appels des marchés, les complaintes des paysans, on les retrouve précisément exprimées, notamment dans le quatuor que vous dirigez.
Oui, dans le quatuor, nous faisons surtout ça. Et puis, nous chantons toujours un morceau de recherche, mais nous ne le chantons pas tel quel, hein, ce serait affreux. Parce que si on cherche de faire vraiment vrai, en faisant tel quel, on le fait vraiment faux. Parce que nous quatre, c'est la bourgeoisie, c'est la ville, c'est toute autre chose. Et donc, nous changeons. Mais c'est vrai qu'il faut prendre les extrêmes vrais Si la gamme n'est pas la gamme diatonique, mais une autre gamme, c'est un mode d'habitude. Par quart de ton, il faut prendre le mode par quart de ton. Et puis, on peut improviser, rajouter, parce que bien sûr qu'il faut rajouter pour faire le spectacle. On peut laisser les choses pas comme elles sont. Parce que là, quand on fait la recherche, la vieille femme qui chante, elle a une mine extraordinaire. Elle est dans une cuisine extraordinaire qui parle tout seul. Tandis que nous, on est sur un plateau. Il faut garder ça et donc rajouter des sons. Et puis, nous rechantons la chose. Et puis, nous, moi, j'écris des madrigaux normaux, c'est-à-dire normal ou normaux, de maintenant, avec l'écriture de maintenant que j'ai appris au conservatoire, mais avec des signes d'altérité, avec des signes d'une autre... Les voix sont poussées par le nez, plutôt dans le masque, ici. Hein, un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est une autre façon de chanter. Maintenant que, dans l'Assemblée des femmes, avec toutes ces actrices, vous savez, il y a 14 comédiennes et 4 comédiens hommes. Et parmi ces actrices, il y a Jeanne, qui est une actrice, une comédienne, je pense, très connue en Suisse, qui chante, elle est âgée, elle chante bien. Et on voit qu'elle a une culture précise de comédienne et musicienne qui chante. Et c'est totalement différent, elle me dit toujours, mais c'est complètement différent de ce que je cherche de faire faire. Elle est bien, elle fait ce que nous dis, je dis, mais c'est une autre voix. Quand on chante « Eh, viens mon bel amour », ça, comme ça, on ne peut pas. C'est « Viens mon bel amour », ça fait une différence, vous voyez. Vous allez écouter ça lundi.
Giovanna Marini, une image peut-être pour dire la démarche qui a été la vôtre et qui demeure la vôtre, c'est lorsque vous avez présenté, je crois, en 64 au festival de Spolette, Bella Ciao. C'était un immense scandale.
Un immense scandale, mais surtout pour ça, vous voyez, parce que les paysannes chantaient avec leur voix et une dame a commencé à hurler et tous les gens du public, après une demi-heure, n'en pouvaient plus. Elle disait... Une dame a dit « Mais moi, je n'ai pas payé 2000 lire pour écouter chanter ma femme de chambre. » Et elle avait tout à fait raison, parce que la dame là, qui était sur le plateau, Giovanna, chantait avec une voix de la campagne. Qu'elle, la dame, elle pensait que c'était une voix de femme de chambre, donc que ce n'était pas beau, il n'y avait pas d'esthétique. Et c'était une autre culture et ça les a frappés terriblement. Je ne pense pas que c'était le fait que nous, on chantait des choses subversives. Vous voyez, des textes qui disaient « Je suis pauvre, je suis mort dans les néfienili, népagliai », comment ça se dit dans les... Je meurs dans la campagne, voilà. Et vous, vous riches, vous dormez sur les lits de laine. On disait ça parce que le mot disait ça. Mais c'était pas ça. Et on disait traître, messieurs les officiers. Alors tout le monde s'est mis à hurler. Ils n'étaient pas des traîtres, vous voyez. Donc, mais c'était pas ça qui les a vraiment scandalisés. Parce que nous, en tout cas, nous étions des bourgeoisies. Alors je pouvais même chanter Bandiera Rossa, que ça ne leur aurait pas frappé. Tandis que Giovanna Daffini, qui était vraiment de la campagne, chantait « Eh, viens mon bel amour !» comme ça. Ça, oui, que les a offensés, vraiment, intimement.
Giovanna Marini, donc, l'Assemblée des femmes au Théâtre de Vidi à partir de lundi, c'est la première lundi de la semaine prochaine. On va y venir, essayer d'expliquer un peu en quoi cette pièce qui remonte pratiquement à la nuit des temps est extrêmement et demeurée complètement, évidemment, moderne. J'aimerais juste rappeler, on détaillera dans un instant, que vous fûtes, ça n'est pas indifférent, parce que d'abord c'était un engagement, et puis que aussi maintenant avec le temps, il y a un peu de distance et un peu d'humour. Vous fûtes féministe et membre du Parti communiste italien. Et dans les années 60, vous avez choisi de vivre et de travailler durant quelques années aux États-Unis. On reviendra sur ce qu'on peut appeler votre période américaine dans un instant.
Come on!
Vous êtes à l'écoute Ondes Femmes 93.8 MHz, donc sur Radio Zone. Nous vous transmettons une interview de Giovanna Marini, la grande dame de la musique populaire italienne.
Et qu'êtes-vous donc allée faire, Giovanna Marini, dans les années 60 aux États-Unis?
Je suis partie avec mon mari qui était physicien. Ça se dit physico-nucléaire.
Physicien.
Oui. Et il avait été appelé pour travailler en Amérique, malgré le fait qu'ils fussent communistes. Ils l'ont voulu, et il y avait encore le macartisme, hein, c'était pas fini, mais ils l'ont voulu parce qu'ils avaient besoin de têtes brillantes. Et j'étais avec lui, j'étais mariée à lui, et j'avais deux enfants petits, et nous sommes allés tous les quatre en Amérique pour y rester. Et donc, c'est pour ça. Et là, je me suis passionnée beaucoup à la musique américaine, bien sûr. Ça, c'était très beau. Hein? C'est la chose la plus belle que j'ai connue en Amérique. Il y avait Bob Dylan qui arrivait jouer avec sa guitare. Il y avait des gens, des talents extraordinaires. C'était très beau, ça. La musique, oui.
Et puis donc, en Italie, vous avez fait partie, à une certaine époque, donc, du Parti communiste italien,
oui.
que vous avez quitté.
Oui.
Vous avez également été, Giovanna Marini, très, très influente dans la lutte des femmes en Italie, à une certaine époque. Avec des
pas si influente que Dacia Maraini. J'avais toujours mes crises particulières. Je n'étais pas toujours d'accord. En tout cas, oui, je suis restée avec elle un bon moment, oui.
Alors, vous signez donc la musique du spectacle que présente en création le Théâtre Vidi Lausanne, l'Assemblée des femmes d'Aristophane. La première, on le rappelle, c'est le 24 juin prochain. Et cela pour 6 représentations seulement. C'est donc une production de la fête des 4 cultures du 700e. C'est Michel Voïta,
oui.
J'imagine, qui a choisi de vous associer donc à son travail. J'aimerais que vous nous disiez un peu ce qu'il vous a proposé. Et d'abord, que vous dit à vous, Giovanna Marini, cette pièce aujourd'hui?
La pièce est amusante, c'est un prétexte, c'est pas un texte, parce que c'est très, très court et ce n'est que les femmes qui s'habillent en hommes et prennent le pouvoir. C'est une prise de pouvoir de la part des femmes. Mais c'est tellement équivoqué, ambigu, parce qu'elles prennent le pouvoir, mais elles veulent que les esclaves continuent à travailler. Et il y a aussi des femmes esclaves. Donc, c'est bien sûr, c'est Aristophane, c'est amusant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se référissent qu'on a, simplement aux gens politiques de l'époque. Comme maintenant, nous, on écrivait une pièce sur Andreotti, et ça nous amuserait énormément. Mais... Et ici, pour nous, l'intérêt n'est que la prise de pouvoir. La chose jolie de ce spectacle, belle, je dirais plus que jolie, est qu'il y a un entier groupe. Et elles travaillent toutes. Mais elles viennent ici pour chanter les chœurs que j'ai écrits. Puis il y a les comédiennes, il y en a de Suisse et de Françaises. Non, les comédiennes sont toutes Suisses. Et une Française, Delphine, qui chante aussi, qui ont appris avec une grande bonne volonté à chanter. Elles chantent bien, elles chantent avec la voix nasillarde des femmes de la campagne italienne. Elles ont vraiment fait beaucoup de progrès sur ça. Puis il y a Frédéric Wolff-Michaud et Sylvie Behassen, avec lesquelles j'ai fait Troyenne il y a 3 ans et que j'ai amené pour me soutenir, et les deux de Lucilla Galeazzi et Patrizia Bovi du Quatuor. Donc c'est un groupe énorme. Puis il y a les cuisinières qui font un vrai repas sur scène.
Oui, alors précisément, à l'origine même de la pièce d'Aristophane, cette comédie, enfin cette fable aussi, s'achève donc par un grand banquet pris en commun entre les acteurs et les spectateurs.
Oui, je pense que Voïta a fait très bien à remettre la chose comme elle était, évidemment, avec le repas final. Parce qu'on ne fait que parler de choses à manger, c'est très concret. et elles font de la cuisine, donc on a le théâtre avec la senteur, les oignons qui frit. Et ça va pervader toute la salle, vous voyez. Donc on aura l'appétit pendant tout ce temps. On voit cuire les viandes, tout sur scène. On va voir ce que ça donne. Je pense que ce sera très beau, parce que c'est compliqué, hein? C'est difficile à jouer le jeu et la mise en et la cuisine vraie, le jeu et la cuisine vraie. Ça sera difficile, parce qu'il faut s'écouter beaucoup, il faut arriver à le faire bien. Mais je pense que Michel Voïta a vraiment eu une belle idée là.
Et quelle est la place de la musique, de votre musique en l'occurrence, dans ce spectacle? Là, je fais une communication de service à la régie. Si on pouvait fermer la porte, c'est bien, merci. Voilà. Quelle est la place de la musique dans ce spectacle?
La musique fait comme une caisse de résonance. Elle ajoute un peu les sentiments. Parce que Aristophane, c'était un vrai journaliste, à mon avis. Et donc, il n'avait pas beaucoup de place pour les émotions. Il ne dit que les choses qui se passent. Et les émotions, c'est à nous de les tirer. Donc, la musique donne un peu de place aux émotions et fait un peu de caisse de résonance, c'est-à-dire que parle d'un esprit avisé, disent tout d'un coup, et c'est beau cette phrase, ça semble un madrigal, parle d'un esprit avisé. Alors la musique fait partir un madrigal à ce point-là et amplifie, voilà, amplifie un peu ce qu'est le récit qui est un peu pauvre, qui reste petit.
Une musique qui sera bien naturellement Giovanna Marini, jouée en direct donc dans ce spectacle.
Ah oui, très. C'est un peu sans réseau, ça se dit sans réseau, sans rete, parce que seulement voix, a cappella, les femmes doivent prendre la bonne note, parce qu'autrement ça devient trop haut ou trop bas, ça peut manquer complètement le but. Et donc elles sont bien, elles ont appris à faire ça en très peu de temps, très bien.